Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, double attaque des ADF dans plusieurs villages du territoire des Mambasa en Ituri mercredi dernier. Bilan, 17 civils tués, dont une dizaine brûlés vifs, d'autres pris en otage et des maisons incendiées. La nouvelle société civile qui livre l'information demande à l'armée de déployer des militaires dans ces contrées pour la protection des personnes et de leurs biens. Tension persistante à l'Assemblée nationale au sujet de l'élection du bureau définitif. Le chef de l'État rencontre d'ici peu les présidiums et les députés de l'Union sacrée. C'est pour trouver une solution à cette crise. Entre-temps, le scrutin prévu pour demain samedi devient incertain. Ouverte depuis 10 jours, la foire internationale de Bukavu dans le sud Kivu se poursuit. Elle regroupe plusieurs opérateurs économiques venus notamment du Burundi et de la Tanzanie. L'institution des microfinances Paytech a loué un stand à cette foire. Nous recevons justement son responsable marketing, Séraphine Mapendo Sirinda, dans ce journal. Bonjour à tous. Patience Ngalou-Lambombo vous présente ce journal. En Ituri, 17 civils tués, dont une dizaine brûlés vifs, d'autres pris en otage et des maisons incendiées. C'est le bilan d'une double attaque mercredi à Nakota, Nyaongo et Wessa dans la chefferie de Babila Babombi dans le territoire de Mambasa. La nouvelle société civile demande à l'armée de déployer des militaires dans les groupements bangolais où ces crimes sont commis. Elle ajoute que les ADF qui fouillent la traque des FRDC dans les Nord Kivu y opère en toute quiétude. Isaac Remoyope.
Un groupe de rebelles ADF s'est introduit mercredi vers 20h dans les villages de Nakota et Nyaongo, à environ 75 km de Mambasa centre. Certains habitants qui prenaient des boissons ont été séquestrés dans les bistrots et y ont mis les feux, rapporté des sources concordantes. 11 personnes sont mortes calcinées et 2 autres tuées par balles, précise la nouvelle société civile de Mambasa. Parmi les victimes, il y a 3 enfants et 2 femmes. 4 autres personnes ont été tuées à Wessa, un village proche. Ces hommes armés ont pris en otage 4 civils et pillé plusieurs biens. Presque toute la population s'est déplacée dans les localités proches, ajoute des sources locales. Le président de la nouvelle société civile de Mambasa signale que ces ADF ont érigé 2 grands bastions dans la forêt où ils opèrent en toute quiétude. Il demande à l'armée de lancer également des opérations dans cette entité qui leur servent de refuge suite à la pression militaire dans le nord Kivu. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au nord Kivu, la situation est relativement calme ce vendredi sur toutes les lignes des fronts dans les territoires de Masisi et de Rutshuru notamment. C'est après une journée d'affrontement hier jeudi sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru autour de Kibirizi et la Rwindi. Des sources à Kibirizi soulignent qu'en dépit des offensives menées par les FRDC pour tenter de déloger les rebelles du M23 de ces espaces qu'ils occupent, les lignes n'ont pas bougé. Chaque parti garde ses positions initiales. Statu quo également dans les villages de Kashuga, près de la cité de Mueso, en territoire de Masisi. Ici, les combattants NDC rénovés se sont accrochés hier avec le M23. Ici à Kinshasa, le président de la République rend hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme du Rwanda et du M23. Félix Tshisekedi l'a dit hier jeudi au cours de la 135e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Par ailleurs, il a réitéré la volonté du gouvernement congolais de tout faire pour mettre fin à l'agression rwandaise sous couvert du M23. On écoute un extrait du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, extrait proposé par Alain Hirung.
Comme annoncé auprès de ses hôtes européens et au lendemain de l'inhumation de 35 âmes injustement arrachées à la vie lors de cette attaque, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort et ne lésinera point sur les moyens qui s'offrent à lui pour mettre un terme définitif à cette odieuse agression. À ces propos, le président de la République a rendu un vibrant hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, de même qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme terroriste et criminel de la coalition rwandaise M23 avec une ferme détermination. Enfin, il a réitéré son appel à toutes les filles et tous les fils de notre nation à se dresser comme un seul homme face à nos agresseurs et au gouvernement de poursuivre les efforts engagés dans le retour de la paix et de la sérénité dans cette partie du territoire national.
Le président Félix Tshisekedi a remercié officiellement les membres du gouvernement Jean-Michel Samalukonde au cours de ses conseils de ministres. Cet au revoir annonce la nomination imminente de la nouvelle équipe gouvernementale de la République démocratique du Congo qui va diriger la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, selon des témoignages des membres du gouvernement, indique l'agence congolaise des presses ACP. Dans la province de la Tshopo, les forces sociales et politiques réclament le déploiement de l'armée dans la commune de Lubunga afin de mettre un terme aux tueries qui se poursuivent par rapport au conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. Mercredi, 4 personnes ont été tuées. La société civile Saouti à Lubunga demande l'implication du gouvernement congolais pour arrêter ces carnages. Cet appel est réitéré ce jeudi par les députés nationaux élus de la ville de Kisangani. On écoute Théovel Lotika au micro de Jacques Moukonkole.
Personnellement, je n'ai pas senti de la part du VEPM un engagement ferme à pouvoir mettre un terme à ces tueries, à ces drames qui continuent à ruiner la population boyomaise. Le VEPM a proposé un forum de paix entre communautés, ce qui n'est pas mal du tout. Mais en attendant la tenue de ce forum, je propose, parce que les tueries continuent, que l'État impose d'abord la paix en déployant cette fois-ci l'armée, parce que la force spéciale de la police envoie sur place il y a quelques mois semble être dépassé par les événements. La paix doit s'imposer et l'État a les moyens pour y arriver. Il suffit d'un peu de volonté et d'un peu d'attention à cette population. Tout peut se faire, tout peut être résolu. Parce que moi j'ai comme l'impression que lorsqu'il s'agit de la Tshopo, lorsqu'il s'agit de Tsangani, le gouvernement central n'accorde pas beaucoup d'attention à ce qui se passe chez nous là-bas et c'est regrettable. Donc je pense qu'il faut d'abord imposer la paix parce que c'est possible de le faire. Ces petits bandits qui opèrent, qui égorgent les gens, qui tuent les gens délibérément, je ne pense pas qu'ils soient plus forts que nos forces de sécurité, que l'armée congolaise.
Signalons qu'à cause de ces tueries, au centre de la commune de Lubunga, cette entité est en train de se vider de sa population qui trouve refuge à la rive droite du fleuve Congo. Et puis, l'Union européenne consent un appui substantiel pour des projets relatifs à la stabilisation et au relèvement communautaire dans les provinces de l'Ituri et du Sud Kivu. Annonce faite ce jeudi au cours d'une rencontre entre la délégation de l'Union européenne et les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Cette réunion qui fait suite aux deux précédentes s'est voulée un échange concret sur l'appui de l'Union européenne dans les opérations de pacification, déstabilisation et de réintégration communautaire entreprises par le PDD-RCS dans certaines provinces du pays. On écoute Mathilda Chedwin, chargée d'affaires intermédiaires de l'Union européenne, au micro d'Alpha Mpoissa.
C'était pour faire le point sur la mise en œuvre du programme PDD-RCS et aussi de notre côté de faire le point vis-à-vis le coordinateur de nos activités qui sont là pour accompagner le programme et les activités de programme dans tout ce qui est rélevement communautaire et stabilisation. Oui, si on regarde les lettres de PDD-RCS, c'est vers le RCS où on s'implique et on a discuté, on a expliqué au monsieur le coordinateur que nous, on a priorisé dans notre programmation l'Ituri et le Sud Kivu et certains territoires là-dedans. Et je pense que ça convient aussi aux priorités de coordinateur. Alors ça va être, je pense, une très bonne chose. Et il s'agit des activités de haute intensité de main-d'œuvre, par exemple, dans ces territoires-là pour les anciens combattants, mais aussi pour les personnes à haut risque ou vulnérables dans les communautés. Parce que c'est ça le programme, c'est ça la nouveauté de programme, qu'on travaille ainsi avec les anciens combattants et avec les communautés.
Selon l'abbé Jean Bosco Bahala, coordonnateur national du PDD-RCS, les choix de l'Ituri comme province prioritaire des actions de l'Union européenne rencontrent les plans opérationnels établis par le PDD-RCS et accompagnent les efforts actuels du chef de l'État pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays longtemps marquée par la violence. Je le disais au sommaire, élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État rencontre ce vendredi les présidiums et les députés de l'Union sacrée afin de mettre fin à la crise. Alors que la campagne électorale s'est clôturée à minuit, la pétition lancée par les députés contre Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, a déjà réuni plus de 125 signatures requises pour sa destitution. L'élection du bureau définitif prévue pour demain samedi devient donc hypothétique, car les députés pétitionnaires ont déjà saisi le Conseil d'État qui fixe son audience pour lundi. Michel Kifindangoy.
Après l'opposition parlementaire qui dénonce la prise en otage de l'Assemblée nationale par Christophe Mbosso et ne jure que par son départ, les députés de la majorité recourent à tous les moyens légaux pour barrer la route au président du bureau d'âge. Steve Mbikai.
Notre pétition a déjà reçu plus de 125 signatures qui étaient requises et sera déposée demain matin. Et d'un côté, compromis, nous avions saisi le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a fixé l'audience lundi prochain. Logiquement, si le bureau de l'Assemblée est légaliste, il doit reporter les élections en attendant qu'on ait l'arrêt du Conseil d'État.
Occasion pour le député Didier Kamundu d'exhorter le président Christophe Mbosso de quitter la vie politique par la grande porte.
Le destin a donné au président Mbosso toutes les chances de finir sa carrière en gras. Il est en train de forcer ce même destin pour finir en petit. Je le conseillerais d'être vraiment sage, puisque les députés ne sont pas prêts à lâcher, d'être une caisse de résonance.
En entendant la réunion convoquée par le président Félix Tshisekedi, les députés de l'Union sacrée disent n'être d'accord qu'avec la candidature de Vital Kamerhe, Jean-Claude Tshilumbayi et Jacques Djoli.
Au Nord Kivu, la deuxième édition des Goma Mining Briefing s'est tenue hier jeudi à Goma sous le thème « La gouvernance des ressources minières, enjeux sécuritaires, économiques, sociaux, environnementaux et opportunités d'investissement dans l'Est de la RDC ». Il était question au cours de ces forums d'examiner l'impact des conflits et de l'instabilité sur les secteurs miniers et de discuter des stratégies pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région, mais aussi de découvrir les opportunités d'investissement dans ces secteurs. Denise Loukesso pour plus de détails.
L'instabilité sécuritaire et autres conflits ont impacté négativement les secteurs miniers au Nord Kivu, avec comme conséquence la baisse de la production et par ricochet, c'est l'économie du pays qui est touchée, ont démontré les panélistes lors de ces forums. Madame Yvette Monza, présidente provinciale de la Chambre des mines au Nord Kivu, l'une des panélistes, préconise comme solution l'imposition par le gouvernement de la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones occupées par les rebelles.
C'est au gouvernement de renforcer l'autorité de l'État, de récupérer les zones qui sont passées sous contrôle rebelle pour que son autorité soit restaurée et que les opérateurs qui sont légalement établis et agréés par lui exercent maintenant leurs activités conformément à la loi et aux exigences internationales.
Et en dépit des différents défis, l'organisateur de ces forums a mis en exergue les opportunités d'investissement dans les secteurs miniers. Keti Amouli est la présidente de Goma Connect.
On ne va pas s'appuyer seulement sur le fait qu'on soit en insécurité pour refouler les investisseurs. Nous devons montrer au monde entier les opportunités d'investissement qu'on peut avoir dans les secteurs miniers de ce côté du pays.
Les participants ont formulé des recommandations et se sont engagés à appliquer les principales. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Autre nouvelle, un lot de plus de 200 engins d'assainissement de la ville de Kinshasa a été réceptionné mercredi 15 mai dans la concession des travaux publics à Limete Funa. Ils viennent de la Turquie où ils ont été fabriqués sur mesure en tenant compte des dimensions des rues et ruelles de Kinshasa. Ces engins vont permettre à l'entreprise Al-Bayrak, spécialisée en assainissement et traitement des déchets, de nettoyer les rues de la capitale congolaise. Le gouverneur de la ville, Gentil Ngobi Lambaka, qui les a à saluer les partenariats commencés depuis presque 4 ans avec cette entreprise turque. D'autres détails avec vous, Blaise Shindani Kambala.
Le gouverneur Ngobila s'est dit heureux de voir ses engins arriver à Kinshasa en dépit de nombreuses difficultés.
Pour nous, c'est une fierté de voir que ce que nous avons promis déjà depuis l'année 2020 a fini par se réaliser. Malgré que au Congo, comme j'ai dit, dans notre pays, nous avons des sérieux problèmes avec nos institutions, nous ne collaborons pas de façon correcte. Les véhicules qui sont arrivés depuis le mois de février, c'est seulement aujourd'hui que nous les recevons ici dans ces garages.
Gentil Ngobila a par ailleurs affirmé que ce projet rêvait d'une importance capitale pour la ville, dans la mesure où Kinshasa va jeter des bases solides d'une collaboration fructueuse avec ses partenaires dans l'amélioration des conditions environnementales des Kinois. Et ce, dans le respect de la notion de durabilité dans la gestion des services d'assainissement qui sont réalisés sur le terrain. Le numéro 1 de la ville a profité de cette occasion pour appeler les bourgmestres à s'impliquer dans ces opérations d'assainissement de la ville pilotée par la société Albarak. Il a également invité la population kinoise à adopter un comportement éco-citoyen en vue d'accompagner ce projet, notamment dans sa phase opérationnelle. Notons que la population kinoise, justement, ne cesse de se plaindre ces derniers temps de la dimension d'insalubrité observée dans tous les coins de la capitale.
À Nitouri, une équipe de la Croix-Rouge locale procède depuis mardi à l'assainissement de la prison centrale de Bounia qui abrite plus de 2300 détenus. Selon un cadre de cette organisation, cette action vise à lutter contre certaines maladies et protéger des centaines de visiteurs qui fréquentent chaque jour cette prison contre des infections. Une brigade d'assainissement y est également installée pour maintenir l'hygiène. Reportage de Lydia Tchombe.
Des secouristes du quartier Bakoko se sont mobilisés pour assainir la prison. Munis de chlore et matériel de pulvérisation, ils ont désinfecté les dortoirs, les chambres des détenus dans les cellules hommes, femmes et enfants ainsi que des latrines. C'est dans le but de réduire le risque de contamination et de maladies dans cette prison. Selon le constat fait par la Croix-Rouge, de nombreux détenus portent des parasites et des poux dus au non-respect de l'hygiène corporelle et de leur environnement, ce qui constitue un danger pour la santé des détenus. Cadre de la coordination de la Croix-Rouge du quartier Bakoko, Baimelia Philippe.
Il faut que nous puissions prendre en charge pour la réduction de ces insectes, des pinaises ainsi que des poules dans des habits pour chercher à réduire un peu les risques, même des maladies.
Le directeur de la prison centrale a encouragé cette initiative qui permet également de protéger contre certaines maladies les familles des détenus qui fréquentent quotidiennement cette maison carcérale. Camille Nzonzi.
Comme la Croix-Rouge est venue assainir les lieux là est fréquenté par tout le monde. Même les gens qui ne sont pas en détention, de visiter cela, ça épargne la maladie.
Le nombre de détenus ne cesse de croître à la prison centrale suite aux violences commises dans cette province affectée par la guerre. Bounia, Lydia Tchombe, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon affichent leur désaccord sur les minorités sexuelles. Les nouveaux premiers ministres Ousmane Sonko et les leaders de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon ont co-animé une conférence à l'université Tchekanta Diop ce 16 mai 2024 à Dakar. L'occasion pour les deux hommes d'afficher leur désaccord sur les minorités sexuelles. La question LGBT risque d'être le prochain casus belli entre les mondes occidental et les restes du globe, insister le chef du gouvernement sénégalais.
L'invité.
La foire internationale de Bukavu se poursuit au chef-lieu de la province dans la commune d'Ibanda, au chapiteau à la botte depuis le 7 mai 2024. Cette foire regroupe les opérateurs économiques venus du Burundi, de la Tanzanie et des provinces congolaises du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Séraphine Mapendo Sirinda, responsable du marketing de l'institution des microfinances Paidec, a loué un stand à la foire pour intéresser les publics sur les activités des Paidec au sud Kivu et dans d'autres provinces. Elle s'entretient avec Jean Kassami.
Séraphine Mapendo Chirinda, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ici, à la foire internationale de Bukavu, vous représentez quelle institution?
Je suis le responsable du marketing de l'institution des microfinances Paidec.
Pour quel intérêt une institution de microfinance comme la vôtre vient aussi louer un stand juste dans une foire à caractère international?
La foire d'abord s'intéresse aux entrepreneurs et ces entrepreneurs viennent des différentes couches sociales, entre autres les agriculteurs, ceux qui sont dans la chaîne des valeurs, il y a les petits commerçants, il y a les artisans et autres. Et Paidec est là pour accompagner tous ces entrepreneurs parce que nous avons deux produits, nous avons les crédits et l'épargne. Et l'épargne concerne tout le monde, toute catégorie de personnes. Et là, nous sommes en train d'ouvrir gratuitement les comptes au niveau de notre stand, ici à la botte au chapiteau. mais également nous renseignons les clients sur les crédits. Par exemple, le crédit jeune entrepreneur, c'est un crédit que nous octroyons aux jeunes qui entreprennent, qui sont encadrés dans différents groupes selon qu'ils viennent de tel ou tel incubateur. Et nous sommes en train de les accompagner en leur montrant comment ils peuvent utiliser les crédits, les conditions d'accès au crédit. Chez nous, nous avons un taux très préférentiel et les entrepreneurs qui sont ici à la foire sont en train de passer, se renseigner. Nous, nous les rencontrons dans leurs différents stands pour que nous puissions les accompagner. Comme vous le savez, Paydeck existe depuis plus de 30 ans. Il est au nord Kivu, au sud Kivu. Nous avons 9 agences. Et nos produits que nous donnons, ce sont les produits qui sont vraiment adaptés aux besoins de la population. Parce que lorsqu'ils veulent ouvrir un compte, ils ouvrent un compte qui est adapté à leur situation. Il y a un compte pour les enseignants, il y a pour les entrepreneurs, il y a pour les grands commerçants, il y a pour les travailleurs. Il y a le crédit adapté à toute couche des populations. Voilà pourquoi nous sommes là pour les accompagner.
Oui, madame, lorsque vous dites que chez vous, à Paydeck, que vous avez un taux préférentiel, concrètement, ça veut dire quoi?
Cela veut dire que lorsqu'un client arrive chez nous à Paydeck ou lorsque nous les rencontrons là où il est, il se renseigne. Nous, on veut comprendre le genre d'activité qu'il fait. Et là, on se rend compte, par exemple, s'il est un agriculteur, nous savons que chaque culture a une saison culturelle, un cycle avant qu'on puisse récolter. On s'est dit, pour cet agriculteur, nous allons lui donner, par exemple, un crédit qu'il va rembourser après avoir récolté. Parce que c'est après avoir récolté qu'il va vendre ses produits et il va avoir l'argent pour rembourser le crédit. Là, nous allons adapter son crédit par rapport à son activité, par rapport à ce qu'il fait. Si c'est un commerçant, un grand commerçant qui exporte et qui amène la marchandise qui est écoulée régulièrement, il y a un crédit qu'on va lui donner selon les taux et selon l'activité qu'il fait. Donc, chaque catégorie a un taux lié à son activité. Si c'est un jeune entrepreneur qui est en train de commencer à entreprendre, il se recherche, on lui donne à un taux le plus bas. Mais il peut être un jeune pendant qu'il a, par exemple, une entreprise qui produit beaucoup. Il ne sera pas traité comme un petit jeune entrepreneur, mais comme un grand entrepreneur qui a déjà une entreprise. Voilà pourquoi nous disons le taux est adapté à tout un chacun et le genre de crédit ou l'épargne est adapté à toute catégorie.
Vous avez enregistré des adhésions ici à la foire?
Oui, nous sommes déjà à plus de 80 adhésions. En tout cas, les gens qui viennent, ils s'inscrivent. Nous, on les appelle les clients parce que c'est eux qui viennent et nous les rencontrons et nous vendons nos services selon qu'eux, ils en ont besoin. Donc, chez nous, on n'adhère pas, mais on s'inscrit.
Et pour attraper un espace comme celui-ci, où vous installez votre stand, c'est gratuit?
Non, ce n'est pas gratuit. Non, nous sommes là, Paydeck, et à la foire comme partenaire. C'est qu'ils nous ont adressé leurs propositions, nous ont montré ce dont ils ont besoin pour la foire. Nous, on a souscrit, on a donné une petite contribution pour que la foire puisse avoir lieu. Donc, nous sommes à la foire comme partenaire. Mais il y a ceux-là qui ont acheté des stands, les entrepreneurs venus de la Tanzanie, du Burundi et de la RDC.
Nous vous disons merci.
Nous vous remercions également.
Et c'est la fin de cette session d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo, supervisée et coordonnée par Alain Irung Mouchinj et Jude Bilandankoumar. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres.